l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Est-ce que le président des États-Unis, Donald Trump, ouvrira les portes de l'enfer? La semaine dernière, le chef du Kurdistan irakien, Nusayr Barzani, accompagné de son cousin Masroor Barzani, s'est rendu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour la deuxième fois en un mois. Il s'agit, selon les observateurs, de la préparation d'un nouveau plan américain pour la région. Lors de cette visite à Abu Dhabi, les Barzani ont rencontré les princes héritiers des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, respectivement Mohammed bin Zayed et Mohammed bin Salman. À l'issue de ces rencontres, une importante nouvelle a été publiée par les médias. Les Émirats arabes unis ont envoyé 3 avions chargés d'équipements militaires au Kurdistan irakien sans le feu vert de Bagdad. La situation a été vite entourée d'un halo d'incertitude. À présent, personne ne connaît les modèles d'armement acheminés au Kurdistan irakien, mais le transfert d'éléments terroristes n'est pas non plus exclu. Selon certaines sources, les dirigeants du Kurdistan irakien ont été chargés par les Américains de favoriser un plan destiné à faire basculer l'Irak dans une guerre totale simultanément aux troubles en cours dans le centre et le sud du pays. Dans la foulée, une source a confié à l'agence de presse iranienne Masher News que les affrontements entre les groupes chiites n'allaient profiter qu'à l'Arabie saoudite et au Kurdistan irakien. Les Barzani ne s'ingèrent pas directement dans la province de Kirkouk et ils font ce qu'ils veulent par le biais des éléments de l'organisation terroriste Daesh. La source a ajouté: des centaines de terroristes de Daesh sont détenus depuis 2 ans au Kurdistan irakien. Une fois relâchés, ils pourront déstabiliser Kirkouk. Les forces de Barzani passeront ensuite à l'acte sous prétexte de repousser les terroristes et elles réoccuperont les régions pétrolifères. En effet, il paraît que les dirigeants du Kurdistan irakien ont pour mission de canaliser les tensions pesant sur le centre et le sud de l'Irak pour faire réussir le plan de la Maison-Blanche et venger en même temps la défaite qu'ils ont subie il y a 2 ans à Kirkouk. L'armée syrienne mène depuis 2 semaines des opérations dans le sud-est de la province d'Idlib. Après d'intenses affrontements, les groupes terroristes ont subi des coups mortels et les forces syriennes ont récupéré des villages d'une grande importance stratégique. Les terroristes considèrent la perte de ces villages comme le prélude à une opération à grande échelle au sud et au sud-est de la province d'Idlib de l'armée syrienne qui a conduit des attaques préventives samedi 30 novembre afin d'éviter davantage de préjudices. Soutenu par les unités d'artillerie et de missiles, les forces syriennes ont réussi à déjouer l'occupation des villages de Hijaz et Sirja, dans le sud-est de la province d'Idlib, par les groupes terroristes qui prévoyaient de se diriger vers la ville stratégique de Sinjar et d'ouvrir la voie à la réoccupation des villages. 24 heures plus tard, le 1er décembre, les groupes terroristes ont fait une nouvelle tentative en menant des attaques contre l'armée syrienne. Les attaques ont été tellement intenses que les forces syriennes ont décidé de se retrancher dans les villages. Dès le lendemain, lundi, les forces syriennes, soutenues par les renforts, ont lancé une nouvelle offensive dans le sens inverse pour récupérer les villages perdus et sécuriser la ligne ferroviaire entre Damas et Alep et l'axe reliant Sinjar à l'aéroport d'Abu Ad Dawur. Elles ont donc repris le contrôle de la situation et bloqué l'avancée des terroristes dans la banlieue de Hijaz et Sinjar. À l'issue de rudes combats, elles ont réussi à nettoyer une grande partie du village de Hijaz. Mardi au matin, les opérations se sont poursuivies de façon plus intense grâce à l'intervention des chasseurs syriens et russes et de l'unité de missiles. Les terroristes se sont finalement retirés expressément des villages qu'ils avaient occupés. Nombre d'entre eux ont été tués et blessés et les pertes matérielles étaient considérables. Les terroristes qui ont survécu aux affrontements se sont retirés vers les régions de l'ouest de la Syrie. Les informations en provenance de l'axe de Tal Hasna font état de la création d'un nouveau front contre les terroristes par les unités de l'armée syrienne. Dans le même temps, la Turquie a envoyé un nouveau convoi d'équipements militaires du point de passage de Kafar Lusin, au nord de la province d'Idlib, vers un poste de sécurité dans le district de Serman, au sud-est d'Idlib. Le convoi devait être réceptionné par les éléments terroristes installés dans la province. La Turquie et les autres alliés des groupes terroristes savent très bien que la progression de l'armée syrienne risque de faire renverser le dernier bastion des terroristes en Syrie, à savoir la province d'Idlib. La libération du village de Marat al-Nouman par les forces syriennes compte pour une immense victoire face aux groupes terroristes. Selon une autre dépêche du correspondant du site Al-Mastar News à Beyrouth, l'armée de l'air russe a lancé une attaque massive contre le gouvernorat d'Idlib ce samedi, plus précisément contre plusieurs zones sous le contrôle de Hayat Tahrir al-Sham et du Front de Libération Nationale soutenu par la Turquie. L'armée de l'air russe a plutôt concentré ses frappes sur les campagnes sud et sud-ouest du gouvernorat. Des frappes ont été signalées contre les villes d'Al-Bara, Has et Asim. L'attaque de l'armée de l'air russe contre Al-Bara aurait été la plus sanglante avec plus de 10 frappes aériennes. Des frappes aériennes ont également été observées dans la région de Jabal al-Zawiya, où plusieurs soldats de l'armée syrienne sont actuellement déployés dans le sud-ouest d'Idlib. Par la suite, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a accusé l'armée de l'air russe d'avoir tué 4 personnes à Al-Bara. Les frappes de ce samedi de l'armée de l'air russe surviennent juste un jour après le crash de l'un de ses avions en raison du mauvais temps.